Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, menace sur la biodiversité. L'IPBES, sorte de GIEC de la biodiversité, se réunit depuis lundi à Paris pour tenter de mesurer ce que certains appellent la sixième grande extinction des espèces. Certains, mais pas notre invité Alain Pavé, qui s'inquiète de voir le discours politique et médiatique sur l'environnement virer au catastrophisme et contaminer le discours scientifique au détriment de la rigueur. Dans Comprendre la biodiversité publié au Seuil, l'ingénieur spécialiste des sciences de l'environnement plaide pour une refondation de ce concept. Mais avant cela, rencontre avec le maître du sourire, certainement l'incarnation la plus parfaite du génie. Sa légende se construit de son vivant et s'étoffe au fil des siècles, de Giorgio Vasari à Paul Valéry, peintre, architecte, inventeur, à chaque époque son Léonard de Vinci. On en parle avec notre invité, Vincent Delieuvin.
La grande table. Raphaël Bourgois.
C'est peut-être l'artiste le plus connu de tous les temps et pourtant il reste un mystère. Probablement parce qu'il a fait l'objet de tant d'interprétations au cours des 5 siècles qui nous séparent de sa mort. Sans doute également parce qu'aussi extraordinaire que ça puisse paraître, il ne laisse que peu d'œuvres achevées. Il y a bien entendu ses carnets, mine d'informations de plus de 4000 pages mais dont la manipulation et l'interprétation restent difficiles. Il faut alors remonter aux origines, partir de cet art auquel il a été formé, qui a tenu une place primordiale dans la vie et la pensée de Léonard de Vinci pour comprendre le monde, je parle évidemment de la peinture. Notre invité connaît le sujet sur le bout des doigts puisqu'il est conservateur en chef du département des peintures du musée du Louvre, en charge de l'art italien et donc des 5 toiles de Léonard de Vinci qui y résident. Bonjour Vincent Delieuvin.
Bonjour.
La Joconde bien sûr, mais aussi la belle ferronnière Sainte-Anne dont vous aviez supervisé la restauration, Saint-Jean-Baptiste, la Vierge au Rocher. Vous serez le commissaire également d'une rétrospective au Louvre en octobre autour de ces 5 toiles majeures du maître Léonard de Vinci. 5 œuvres seulement, 6 si on ajoute Bacchus ou Saint-Jean-Baptiste, vous nous direz ce que vous en pensez. C'est 1/4 d'étoile attribuée à Léonard de Vinci.
Oui, on a l'impression que c'est pas beaucoup, 5 tableaux, mais en fait c'est considérable. Et en plus, on a la chance de pouvoir illustrer avec ces tableaux l'ensemble de la carrière de Léonard de Vinci. La Vierge au Rocher, c'est le plus ancien tableau que l'on conserve au Louvre. C'est pratiquement le premier chef-d'œuvre de la première maturité, on pourrait dire, de Léonard de Vinci. C'est encore très florentin, il y a encore toute sa formation, sa jeunesse dans le 15e siècle florentin. Et puis, on a la chance d'avoir les 3 derniers grands chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, ce qui représente vraiment l'accomplissement de ses recherches. C'est vraiment le testament pictural de Léonard, à savoir la Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste et bien sûr la très célèbre Joconde.
Qu'il emmène avec lui dans ses bagages quand il vient en France, évidemment à l'invitation du roi François Ier. On va faire un petit peu d'histoire, mais surtout de l'histoire de l'art avec vous, si vous le voulez bien. Vous dites dans un livre, puisque vous publiez également 2 livres, en tout cas vous avez écrit la préface de Léonard de Vinci, d'un Léonard de Vinci chez Poche Illustrateur, pardon, aux éditions Delpire, où on voit un certain nombre de croquis, de dessins et de peintures, et également Léonard de Vinci en 15 questions, c'est chez Azan, je bafouille un petit peu, pardon. Il y a chez lui, vous estimez, une telle estime de la peinture dont il veut démontrer la supériorité par la pratique et la théorie que ça explique peut-être la rareté de ses œuvres.
Complètement. C'est vrai que c'est Léonard de Vinci, c'est peut apparaître et au lieu de ses contemporains, déjà, les gens ont commencé à dire mais finalement il fait pas grand chose. Au lieu de gâcher son talent à faire de la philosophie, à faire de l'anatomie, disséquer les corps, à quoi ça sert pour un peintre? Mais en fait, Léonard de Vinci avait une démarche tout à fait singulière. Il a voulu être sans doute le plus grand des peintres de son temps et pour cela, il a mis au point ce qu'il appelait la science de la peinture. Pour lui, la peinture, c'est pas seulement l'acte de représenter le monde, de copier le monde, il faut absolument le comprendre, comprendre le fonctionnement de cette nature, de ce monde. Donc effectivement, il ne se contente pas de faire un dessin d'après la nature, il va pas représenter, si vous voulez, le corps humain seulement dans sa superficie, il essaie de comprendre comment fonctionne le corps humain. Et qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Eh bien, ça veut dire disséquer le corps humain, mais aller jusqu'à des observations très fines, par exemple, sur le fonctionnement du cœur humain. Il essaie de comprendre aussi le fonctionnement de l'expression humaine, c'est quelqu'un qui travaille la caricature, la physiognomonie. Donc il va extrêmement loin, plus loin que ce que l'on pourrait imaginer de nécessaire, d'indispensable pour un peintre. Mais c'est justement ce qui va lui permettre de créer un nouveau chapitre dans l'art de la Renaissance. Léonard, c'est pas seulement celui qui imite les formes de la vie, c'est celui qui comprend aussi le rythme, la vie intérieure des choses. Et c'est grâce à cela qu'il est devenu ce peintre extraordinaire, celui qui a réussi à insuffler la vie dans sa peinture.
qui a une conception donc très particulière de la peinture, vous nous l'expliquez à l'instant. Il a laissé un traité de la peinture, en tout cas des notes qui ont été réunies en traité de la peinture par son élève, hein, Francesco Melzi. C'est une peinture comme science et à la fois une peinture comme invention, comme création. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, Vincent Deliévin.
Tout à fait. Alors il y a d'abord, effectivement, pour Léonard, le fondement de la peinture, effectivement, pour lui, c'est une science et qui s'établit sur une connaissance, une compréhension du fonctionnement du monde. D'abord, bien évidemment, la compréhension de l'ombre et de la lumière, parce que Léonard le dit bien, on ne voit pas des lignes, on ne voit que des transitions de l'ombre à la lumière.
Donc c'est veille quelqu'un... à ce que tes ombres et lumières se fondent, s'entraînent en ligne comme une fumée. C'est le fameux sfumato.
Tout à fait, exactement. Léonard, ça développe, c'est très important, c'est très structurant, et c'est d'ailleurs ce qui fait la singularité de l'art, de la peinture de cet artiste, c'est qu'il n'y a pas de traits, de contours incisifs. Tout n'est que subtile transition de l'ombre à la lumière. Et c'est grâce à cette maîtrise des effets de la lumière qu'il parvient en fait à donner un effet de vibration à la matière picturale. Et c'est pour ça que les gens sont fascinés par le sourire de la Joconde, par exemple. Parce que ce sourire, il est extrêmement vivant. Mettez la Joconde à côté de beaucoup de tableaux de ses contemporains, vous verrez qu'il y a cette impression incroyable d'intelligence de l'expression, un sourire d'une vie absolument extraordinaire.
Alors faut-il voir aussi dans cette approche justement de faire apparaître les visages dans la lumière, Vincent Deliévin, ce sfumato qui permet, non pas c'est pas les traits à la Giotto, c'est vraiment une façon différente de peindre évidemment. Est-ce qu'il faut y voir une approche philosophique de cette époque humaniste, de cette époque de la Renaissance, une façon de faire apparaître, de s'intéresser aux figures, à la figure humaine et de la faire apparaître dans la lumière?
Tout à fait. Il est vraiment le moment où Léonard travaille, c'est un moment considérable pour les arts, pour la peinture, pour la sculpture, parce que enfin ils accèdent, je dirais, au registre des arts intellectuels, ceux où il n'est pas seulement question d'une capacité manuelle, mais il est aussi question de toute une part intellectuelle de la réflexion. Donc effectivement, Léonard veut démontrer que la peinture, il le disait, est una cosa mentale, une chose de l'esprit, et donc qu'elle se fonde sur vraiment une compréhension, une étude scientifique de la nature. Il n'est pas seulement question, vous voyez, d'imitation, il est question d'une compréhension scientifique précise du fonctionnement du monde. Et ça, c'est vraiment Léonard qui, le premier, pose la peinture vraiment avec ce statut considérable vraiment d'une science intellectuelle. Et donc, ou à part, bien évidemment, tout un trait philosophique, Léonard avait quand même l'habitude de justement de comparer l'acte de peindre à l'acte de la création de Dieu. Dieu a créé la nature, l'humanité, et le peintre lui-même est créateur de sa propre œuvre. Mais le principe est exactement le même. Donc ça vous montre bien la dimension intellectuelle qu'il y a chez Léonard dans sa vision de la peinture.
Il y a une dimension très provocatrice, presque blasphématoire dans ce que vous venez de dire, Vincent Deliévin. Ça lui a pas valu des problèmes?
Alors on pourrait le penser, mais en fait, à cette époque-là, il y a 500 ans, les choses étaient effectivement en réalité bien différentes. Et au contraire, il y avait, je dirais, une volonté de restituer aussi les mystères sacrés dans cette peinture, parce que bien évidemment, cette peinture, cette recréation telle que avait pu le faire Dieu dans la véritable nature, elle est aussi au service de l'illustration des mystères sacrés. Et Léonard a été un des plus beaux et un des plus précis illustrateurs de ces mystères. Il suffit de regarder le Saint Jean-Baptiste ou la Sainte Anne, qui sont vraiment des tableaux où on sent que Léonard a été quelqu'un qui maîtrisait véritablement la pensée et le dogme religieux.
Alors justement, parlons un petit peu de cette Sainte Anne, puisque vous la connaissez bien, vous avez présidé, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais en tout cas coordonné sa restauration avant qu'elle soit de nouveau visible au Louvre, c'était en 2012 je crois. C'est le dernier tableau, l'ultime tableau de Léonard de Vinci, on l'a dit, l'un des trois qu'il emmène avec lui en France, sur lequel il travaille jusqu'à sa mort, qui reste donc non fini, non terminé. Peut-être qu'il faudra revenir aussi sur cette dimension du travail de Léonard de Vinci, c'est-à-dire cette façon qu'il a de ne pas terminer, de ne pas jamais mettre un point final à ses recherches et à ses tableaux. Mais un petit mot quand même sur cette Sainte Anne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, justement, de toute cette conception, de ce défi pictural que se lançait Léonard de Vinci à lui-même?
Alors la Sainte Anne, c'est vraiment le tableau testament de Léonard. C'est le plus ambitieux de ces tableaux tardifs. Il représente trois personnages. Donc il y a Jésus, sa mère la Vierge Marie et sa grand-mère Sainte Anne. Et ces trois personnages sont mis en scène dans un paysage absolument extraordinaire, le paysage léonardien par excellence, celui où, d'une certaine façon, Léonard nous narre toute l'histoire de la création. On a cette stratification de rochers sous les pieds des personnages qui nous raconte cette langue lente sédimentation de la roche. Il y a surtout au fond ce paysage absolument sublimissime où on a cette lutte entre les éléments, l'eau qui déforme la roche et qui crée ces paysages un peu effrayants, très très durs, avec des formes assez étranges de ces rochers. Et Léonard veut vraiment installer le mystère sacré dans cette lente histoire de la nature, de la planète et de l'humanité. Et puis après, il y a ce mystère sacré, c'est-à-dire ce moment qui nous est donné à voir, c'est en fait ce qui est représenté dans ce tableau, c'est le moment où la Vierge Marie comprend qu'elle doit laisser aller son fils vers son destin qui est celui de mourir. Jésus, Christ qui est représenté dans ce tableau, prend dans ses bras un agneau. L'agneau, c'est l'animal du sacrifice et donc c'est le symbole que Jésus va vers sa mort. Et en fait, ce que nous donne à voir Léonard dans ce tableau, c'est ce moment précis, cette transformation de l'expression de la Vierge, de cette tristesse, et encore une mélancolie dans ce visage, et il y a cette joie parce qu'elle sait que c'est un destin nécessaire pour le salut de l'humanité. Léonard a mis 20 ans à trouver le moment qu'il voulait représenter dans cette histoire. Il avait imaginé toutes sortes de choses auparavant. Et puis finalement, ce qu'il décide de nous montrer, c'est cet instant, c'est vraiment ce moment de conversion dans l'esprit de la Vierge, de la tristesse d'une mère au bonheur d'être la mère de Dieu et de ce mystère sacré qui était donc le destin de Jésus.
Il y a la représentation picturale, les visages, il y a aussi la composition. Il dit de ce tableau qu'il a suivi une composition instinctive. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors ça, c'est une chose que l'on voit dans tous les dessins préparatoires de Léonard de Vinci, qui est vraiment, on voit Léonard comme un grand scientifique et en même temps c'est quelqu'un qui est un grand poète. Justement, il l'écrit dans ses conseils aux peintres. Lorsqu'on conçoit les premiers moments de la composition, donc c'est sur avec une pierre noire, une plume sur une feuille de papier, il faut laisser aller la main librement, trouver les contours d'une figure. Et c'est extraordinaire, les dessins préparatoires pour la Sainte Anne sont des dessins, presque des tâches infantes, parce que Léonard a disposé en gros ces figures, et puis est revenu sur les contours, revenu, jusqu'à créer des sortes de tâches qui pour nous sont difficiles à comprendre, mais qui en fait sont pleines de potentialités, et c'est en observant, en réobservant ces potentialités qu'il va trouver la disposition la plus parfaite pour sa composition.
Et qui ressemble à quoi cette disposition ? Pour ceux qui n'auraient pas le tableau, c'est une disposition en pyramide, on pourrait
Exactement,
dire.
C'est une pyramide, mais avec un effet de mouvement assez extraordinaire. On a l'impression de le même personnage, Sainte Anne et sa fille, qui ont à peu près d'ailleurs le même âge, c'est assez extraordinaire. Et on a l'impression du pivotement de la même figure. Léonard donne à voir la succession des générations. Il y a Sainte Anne qui domine la composition, et puis dans la continuité de la hanche de Sainte Anne, il y a vraiment la Vierge qui naît du giron de sa propre mère et qui elle-même donne naissance à son fils qui lui vient de poser un pied sur terre. Donc on a vraiment la succession des générations qui sont visibles dans ce tableau. En même temps, il y a cette forme très harmonieuse de la pyramide qui plaisait tant au Léonard passionné de géométrie.
Oh,
Mona Lisa Pulcra, c'est une adaptation de Lucrezia Pulcra, un chant anonyme tiré de l'album Leonardo da Vinci, la musique secrète sous la direction de Denis Raisin d'Ardre. On sait que Léonard de Vinci, puisque c'est un artiste total, jouait de la musique, en tout cas écoutait de la musique dans son atelier. Et donc, on va parler aussi de ce rapport aux arts en règle générale avec vous, Vincent de Lieuvin. Qu'est-ce qu'on sait finalement de Léonard de Vinci? Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait de Léonard de Vinci, je devrais demander plus tôt, puisque je le disais, hein, il nous reste tout de même beaucoup de carnets de sa main, plus de 4000 pages, et en même temps, il a construit sa légende de son vivant. Vasari qui a écrit les vies des grands architectes et peintres juste un siècle après la mort de Léonard de Vinci a commencé la légende, et ça a continué au fil des siècles, même si, aussi étrange que ça puisse paraître, il me semble qu'il y a un moment où il a été un petit peu oublié avant de revenir au 19e siècle, de retrouver, bref, à chaque époque, son Léonard de Vinci. Comment vous expliquez ça?
Il y a un grand pouvoir de fascination quand même des œuvres de Léonard. Alors effectivement, Léonard lui-même a créé son mythe d'une certaine façon d'un artiste universel. D'abord par ses activités, il a toujours voulu être au service des plus grands princes de son temps, justement pour pouvoir obtenir des commandes extrêmement variées, de l'architecture, de la sculpture, bien sûr de la peinture, mais aussi toutes sortes d'exercices d'ingénierie militaire notamment. Mais effectivement, après la mort de Léonard, tous ces carnets scientifiques sont restés entre les mains d'un petit groupe, les héritiers de Léonard ou quelques amateurs, et on a oublié cet aspect de la vie de Léonard. Et pendant des siècles, Léonard est devenu un peintre. Alors un peintre très célèbre, parce que voilà, il y avait quelques tableaux, moins d'une vingtaine d'originaux, mais d'une certaine façon, on a commencé à attribuer tous les tableaux de ses élèves, donc des centaines d'œuvres, à Léonard lui-même, sous ce qu'on appelle les tableaux des artistes léonardesques. Donc pendant les 17e, 18e et en partie au 19e siècle, Léonard a eu une très grande réputation, mais de peintre, et en fait une mauvaise réputation parce que on lui attribuait des centaines d'œuvres qui n'étaient pas de lui. Et puis c'est seulement à l'extrême fin du 18e siècle qu'on redécouvre enfin que Léonard avait été un grand scientifique. C'est un Italien, un certain Venturi, qui a redécouvert à l'Institut de France, dans la bibliothèque de l'Institut de France, ses carnets, les carnets qui étaient conservés, et qui a commencé à dire, mais attention, regardez la pensée extraordinaire de cet homme qui n'a pas été qu'un artiste, mais qui au contraire semble avoir été à la pointe des recherches scientifiques en son temps.
Alors cette dimension scientifique, je conseille à nos auditeurs d'écouter ou de réécouter l'émission de Nicolas Martin, La méthode scientifique, qui était consacrée hier. Nous, on va se concentrer sur la dimension artistique, même si c'est très difficile de faire la différence, parce que comme vous l'avez expliqué, Vincent de Lieuvin, il y a dans la théorie de la peinture de Léonard de Vinci un instrument de la connaissance du monde.
Tout à fait. Il faut surtout pas différencier ces approches. La peinture, dans l'esprit de Léonard, il l'écrit hein, d'ailleurs, devait assurer l'unité de ses recherches. Sans recherche scientifique, sans enquête sur la nature, sans disséquer des corps, il n'y aurait pas eu l'extraordinaire peinture de Léonard de Vinci. Lui en était conscient, hein, et c'est pour ça il faut pas non plus se plaindre. Souvent, je le disais un peu au début, les contemporains disent il a presque rien fait, il a gâché son talent. Mais au contraire, il faut se féliciter que Léonard ait si peu peint, car ce qu'il a peint, chacun de ses rares tableaux, est un extraordinaire chef-d'œuvre qui ne s'explique que par cette démarche extraordinaire d'une peinture fondée sur la science.
Alors on l'a dit, il a alimenté les mystères, ça a même donné lieu à des interprétations de la pop culture, hein, le Da Vinci Code évidemment, il est présent même dans le jeu vidéo Assassin's Creed, voilà, où il fait une apparition remarquée, de manière peut-être un peu moins triviale, on a pu lire le livre de l'historien médiéviste Patrick Boucheron qui faisait discuter Léonard de Vinci et Machiavel. Bref, il occupe nos imaginaires à tel point que tout ce qui touche à Léonard de Vinci est extrêmement sensible. Vous en avez fait l'expérience il y a quelques années, au moment de la restauration de la Sainte-Anne, malgré la commission internationale de 16 experts, malgré la présence de Cinzia Pasquali, qui est l'une des restauratrices les plus connues, les plus estimées, on a eu peur, très très peur, en tout cas beaucoup de gens ont eu très peur et se sont exprimés dans les médias sur cette restauration, Vincent de Lieuvin, on ne va pas revenir dessus, par contre j'ai une question à vous poser, est-ce qu'on pourrait imaginer une restauration de la Joconde?
Alors, évidemment, la Joconde a été restaurée dans les temps anciens. Pour le moment, vous savez, on restaure les tableaux que lorsqu'il y a vraiment un grave problème de lisibilité. Pour le moment, la Joconde, on arrive à voir encore la composition. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas travaillé sur ce tableau. Les autres tableaux, la Sainte Anne, elle avait vraiment des graves problèmes de soulèvement. On allait perdre de la peinture. Le Saint-Jean-Baptiste disparaissait. On ne voyait plus la croix, on ne voyait plus la peau de bête. Et c'est pour ça qu'on l'a restaurée en 2016 aussi. Idem pour la Belle Féronnière qui était défigurée par beaucoup de taches sur son visage. La Joconde a la chance d'une certaine façon de ne pas avoir ce genre de problème. Donc pour le moment, on ne songe pas du tout à une restauration de la Joconde, mais j'imagine peut-être mes successeurs qui auront à gérer Léonard de Vinci dans quelques années. On sait que c'est naturellement les vernis qui ont été posés par des restaurateurs au cours du temps, il y en a beaucoup sur la Joconde, ils continuent de s'oxyder, continuent à noircir. Donc si on veut que la Joconde reste visible, il faudra un jour faire quelque chose.
Mais est-ce que la Joconde qu'on voit aujourd'hui, c'est celle qu'a peint Léonard de Vinci?
Bien évidemment pas. La Joconde, elle a énormément changé à travers sa vie. Alors il y a un changement irrémédiable qu'on ne pourra jamais restaurer. Ça, ce sont les craquelures qui sont apparues sur la matière picturale avec les défauts de séchage, parce que Léonard était expérimenté et malheureusement la peinture à l'huile, il est un peu trop expérimenté. Donc on a de grosses craquelures qui traversent le visage, mais toute la composition du reste. Et puis il y a surtout, comme je vous le disais, les vernis de restauration. Ces vernis qui ont été posés après la mort de Léonard de Vinci deviennent de plus en plus jaunes, sombres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils transforment la palette. Par exemple, le ciel. On devrait avoir un très beau ciel bleu, le même que l'on voit dans la Sainte Anne. Aujourd'hui, on peut le voir encore lorsque, une fois par an, on sort le tableau de sa vitrine, qu'on le décadre et qu'on a la chance de voir l'infime partie qui est cachée sous le cadre. On a un bleu du ciel, lapis-lazuli, mais d'une couleur absolument merveilleuse, un beau ciel de Toscane. Effectivement, ce ciel, il est devenu, avec ce voile jaune des vernis, il est devenu verdâtre. Même le visage, les mains sont un peu grises. Alors, on arrive, la Joconde est toujours visible, mais elle a été très transformée par ce vieillissement des matériaux de restauration.
La Joconde est à nouveau parmi nous. Il est un peu plus de midi. Le musée du Louvre, dont au milieu de tant et tant de chefs-d'œuvre, elle est le plus universellement célèbre, voit pénétrer en ses enceintes secrètes les voitures de son escorte venant du Havre, où elle était arrivée quelques heures plus tôt. L'esprit encore occupé par le triomphe qu'elle vient de connaître aux États-Unis, 1 800 000 visiteurs dont 60 000 à Washington et 1 077 521 à New York, la mystérieuse peinture de Léonard de Vinci retrouve ses illustres et plus proches compagnons de la grande galerie, œuvre de Raphaël et du Titien. Mais aujourd'hui, Mona Lisa se souvient des deux discours prononcés en son honneur en ce mois de décembre 1962, celui de M. André Malraux et celui du président Kennedy.
Vous avez bien voulu, Monsieur le Président, parler d'un prêt historique, pensant peut-être aux sentiments dont il témoigne. Il est historique aussi en un autre sens qui vous fait grand honneur. Lorsqu'à mon retour, quelques esprits chagrins me demanderont à la tribune de l'Assemblée française, pourquoi avoir prêté Mona Lisa aux États-Unis? Je répondrai, parce qu'aucune autre nation ne l'aurait reçue comme vous.
Malraux en 1962 qui anticipe les critiques de l'Assemblée nationale pour avoir prêté, je crois que c'était la dernière fois que la Joconde a quitté le Louvre, avoir prêté la Joconde aux États-Unis. Vous êtes en charge, Vincent Delieuvin, de la prochaine grande exposition en octobre qui va avoir lieu aussi au Louvre. Et on va dire que les tensions diplomatiques restent très très vives autour de ce type d'événement. C'est toujours aussi difficile de collaborer, de coordonner une exposition comme celle-ci?
Oh, évidemment, mais ça, on s'en doutait. Léonard de Vinci, c'est l'artiste le plus célèbre. Donc, nous avons la chance au Louvre d'en avoir 5. Mais la plupart de nos collègues n'ont qu'un Léonard de Vinci. Donc, effectivement, on comprend que ça soit difficile de prendre la décision de prêter le tableau qui est souvent, je dirais, l'attraction du musée. Donc, la personnalité du musée perd un peu en intérêt lorsqu'il prête le tableau. Maintenant, je crois que nos collègues sont aussi conscients que nous sommes sans doute les seuls à pouvoir organiser une exposition complète sur Léonard de Vinci. 6 peintres, on a les 5 tableaux, on a aussi plus de 20, on a 22 dessins de Léonard de Vinci, ce qui est considérable. Le projet, je crois, a quand même été reconnu pour sa qualité par nombreux de nos collègues. Donc, dès aujourd'hui, on sait qu'on aura une belle exposition avec des prêts importants. Maintenant, on a encore sans doute quelques dernières personnes à convaincre, mais c'est en très bonne voie. Mais c'est tout à fait normal, on s'y attendait et on n'est pas déçus, à vrai dire.
Oui, c'est compliqué, mais après, c'est une affaire entre scientifiques, c'est une chose, entre conservateurs, c'en est une, mais entre quand les politiques s'en mêlent, on a vu Emmanuel Macron recevoir le président Mattarella pour adoucir un petit peu les choses, parce qu'il y a eu en Italie quelque chose qui s'est passé, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut entendre assez régulièrement, une façon d'accuser les Français de se réapproprier Léonard de Vinci. Ça aussi, ça fait partie du mythe et de toute la folie qui entoure le personnage.
Oh, il y a de temps en temps quelques idées reçues. C'est vrai qu'on entend souvent que les Français et Napoléon, bien évidemment, auraient volé la Joconde. Alors que c'est François Ier qui l'a acquise pour très cher, il y a fort longtemps, 1518, du vivant même de Léonard de Vinci. Donc il peut y avoir de temps en temps ces bruits, ces petites erreurs. Mais c'est bien logique. Je crois qu'il y a une grande et un bel orgueil des Italiens vis-à-vis de Léonard. Après, vous savez, nous, on les aide beaucoup cette année. En ce moment même, il y a une exposition remarquable qui est organisée à Florence sur la jeunesse de Léonard de Vinci. Ainsi, sur le maître, combien il a pris auprès de son maître Verrocchio, et le musée du Louvre prête 16 œuvres, dont 2 peintures sur toile, 2 exercices, des draperies merveilleuses, dont la plus célèbre. Donc il y a un grand soutien, et je suis sûr que nos collègues italiens, et même, je dirais, jusqu'au pouvoir politique, il y aura, je dirais, une grande amitié et un grand plaisir à soutenir les projets qui ont lieu en Italie et ceux qui ont lieu en France.
Vous avez cité Verrocchio, c'est vrai qu'on n'avait pas encore cité le maître de Léonard de Vinci, c'était un grand atelier de sculpture. Pourquoi si peu de sculpture de Léonard de Vinci ? Vincent de Liévin.
Alors moi je pense, mais ça c'est ma théorie, c'est mon hypothèse, qu'au bout du compte, Léonard était sans doute moins doué dans ce domaine-là, et le seul grand projet qu'il a...
Il y avait donc des choses qu'il ne savait pas faire.
Mais oui, mais ça le rend encore plus attachant, bien sûr, tout comme ses machines. Heureusement que personne n'utilise son hélicoptère, ni son avion, enfin son soi-disant avion, parce qu'il manque quand même un élément important, il manque le moteur. Et évidemment, l'accident est fort prévisible.
Merci beaucoup Vincent de Liévin, vous avez publié Léonard de Vinci en 15 questions aux éditions Hazan. Léonard de Vinci, c'est chez Delpire, et on ira voir évidemment la grande exposition rétrospective au Louvre à partir du mois d'octobre, c'est ça ?
24 octobre.
24 octobre, merci pour la date. Il y a aussi en ce moment tout un tas d'expositions, dont certaines auxquelles vous avez participé. On mettra les références sur le site de la Grande Table. Merci beaucoup.
Merci à vous.